Face à l'info sur la première.
Face au livre.
Ce soir, nous allons partir en voyage dans Face au livre. Voyage corsaire au singulier. Hein. C'est le titre de l'écrit, du roman, encore que difficile de le qualifier strictement de roman, de Giuseppe Santoliquido, que vous connaissez bien sur cette antenne et dans cette émission, puisque nous le recevons souvent comme politologue, spécialiste notamment et singulièrement de l'Italie. Mais ici, aux éditions Caire, dont il nous faudra dire un mot aussi, hein, une petite maison à soutenir et qui va prendre sa part de visibilité, Giuseppe Santoliquido nous vient avec une deuxième démarche littéraire, hein, voilà, peut-être comme telle. Après le docteur Samuele Furfari, après le docteur Samuele Gaspari qu'on avait déjà accompagné dans cette plongée dans l'histoire sociale italienne, belge à l'époque du fascisme, nous voici ici sur les traces de quelqu'un qui manifestement est cher au cœur de Giuseppe Santoliquido, qui est Pierpaolo Pasolini, que l'on va retrouver en traces, en filigrane, y compris du titre. Ici, Voyage corsaire, qui sonne étonnamment en écho au récit corsaire de Pasolini, qui manifestement a dû inspirer quelques nuits de réflexion à notre auteur. Giuseppe Santoliquido, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être face au livre. Donc, Voyage corsaire, récit corsaire, on voit bien où est le papa spirituel de votre démarche.
Oui, oui, indéniablement, c'est le titre Voyage corsaire est un hommage à peine voilé à Pierpaolo Pasolini et c'est effectivement le penseur, je vais dire, qui m'a accompagné avec d'autres, hein, mais essentiellement lors de la rédaction de cet ouvrage, parce que lui-même a longuement travaillé, réfléchi sur les thématiques que j'ai voulu très modestement reprendre, et lui-même s'était rendu en Afrique et avait travaillé sur ces sujets.
Alors, on va y revenir dans un instant, mais peut-être précisément expliquer à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas sous cet angle-là, on va un petit peu découvrir aussi, on a un petit peu le temps, Giuseppe Santoliquido, parce qu'on vous connaît, je l'ai dit, comme politologue, on vous sait spécialiste de l'Italie, on vous reçoit régulièrement ici sur ce thème-là. Ce que l'on ignore plus, c'est notamment votre attache à l'Afrique, le fait que vous y enseignez, vous passez une partie de l'année, notamment au Cameroun.
Oui, effectivement, j'enseigne aux facultés de sciences politiques d'Afrique centrale, dont le siège est à Yaoundé. Donc je suis presque à chaque fois, je me rends à Yaoundé pour des séjours variant de 3 à 4 semaines, et donc plusieurs fois par an. Donc effectivement, j'ai développé une attache avec l'Afrique. Une attache avec l'Afrique, et en ayant découvert ce continent, mais le continent est vaste et il est pluriel, donc, mais en ayant découvert le Cameroun, j'ai trouvé pas mal de similitudes d'ailleurs avec une partie de l'histoire italienne et avec une partie des questionnements qui traversent la société italienne. Donc il y a là aussi des échos qui se répondent comme ça par-delà les mers.
C'est important de le souligner parce que pour celles et ceux qui nous écoutent, vous nous offrez ici, voilà, je l'ai dit, une démarche littéraire qui est une somme de petits récits dont a priori on pourrait les lire séparément parce que c'est sous le format de petites nouvelles, qui en fait pourtant forment un tout dans une trame que l'on découvre quand on a fini la lecture, qui est une forme très cyclique. On va y revenir, qui nous rapproche d'une certaine écriture grecque antique où effectivement le temps, la cyclicité du temps est intéressante et où en plus tout commence par un rêve, c'est une plongée onirique, donc on navigue toujours entre réel et irrationnel.
Oui, effectivement, donc il y a la thématique du voyage dont je suppose que nous l'approfondirons tout à l'heure, la thématique du voyage et la thématique du rapport entre le réel et l'imaginaire, et entre surtout la thématique de l'emboîtement entre ces deux dimensions qui peuvent finir et qui finissent, à mon avis, par ne former qu'une seule et même entité.
Un cycle de voyage, on va venir effectivement sur ce thème voyage, mais un cycle, j'insiste, parce que lorsque l'on est au bout, et je me suis surpris moi-même, lorsque l'on est au bout, on a une envie de recommencer le récit avec les clés que l'on pense avoir découvertes pour en redécouvrir d'autres et vérifier la cyclicité de l'écriture. Est-ce que vous l'avez écrit dans cet ordre-là seulement ?
Oui, je l'ai écrit dans cet ordre-là. Effectivement, chaque texte, parce que je ne sais pas si on peut les qualifier de nouvelles, cela varie en fonction des personnes qui commentent l'ouvrage. Moi-même, je ne le sais pas trop. Mais effectivement, chaque texte, chaque nouvelle, chaque épisode peut se lire séparément, mais il y a une trame narrative qui les traverse chacun et qui finit par fournir ses, entre guillemets, clés de lecture ou de compréhension de certaines thématiques tout à la fin. Donc là, le dernier texte, lui, a été écrit, je veux dire, avec l'intention de fournir quelques cheminements au lecteur.
Déjà une démarche, cela dit dans l'audition du docteur Gaspari, c'était déjà une démarche que vous aviez utilisée. Hein. Il fallait déjà, je dirais, avoir accompli l'ensemble du cycle pour redécouvrir un nombre de clés et revenir aux initiales.
Oui, effectivement. Il y a cette thématique du temps et de la cyclicité, comme vous dites, effectivement, qui recoupe la thématique du voyage, c'est-à-dire je cite notamment Ungaretti et la thématique de l'aurore. Donc c'est cet éternel recommencement, si l'on peut dire ainsi, cette possibilité d'entamer des voyages comme ça pratiquement chaque jour avant, au moment de l'aurore, et donc de repartir vers de nouvelles découvertes et de revenir éventuellement à un point de départ. Donc c'est vrai qu'il y avait cette démarche dans l'intention d'écriture, en tout cas.
Ouais, alors, la vie est un voyage, chaque jour est un voyage en soi, la nuit qui porte conseil mais qui permet de rêver, le rêve est un autre support du voyage, l'Afrique est une terre initiatique, donc c'est aussi un voyage de soi à soi. Et l'on va découvrir, notamment dans un de ces textes, arrivons-y d'emblée, que l'on peut recommencer 40 fois le même voyage initiatique sur une scène théâtrale, par exemple ici, lorsque l'un de vos personnages fondamentaux, cette espèce de Pasolini continué, va remettre 40 fois en scène, peut-être 25 fois en scène, le même Orestie d'Eschyle.
Voilà, oui, effectivement. Donc il y a de nouveau cette dimension de la cyclicité et... Il y a les deux voyages et les deux thématiques essentielles qui traversent le livre, ou du moins, en tout cas, dans les intentions. C'est le voyage initiatique intérieur du personnage, ce héros récurrent que l'on retrouve dans chaque nouvelle, sa relation lui-même, les relations qu'il développe au rêve, à la réalité, au rationnel, à l'irrationnel. Irrationnel entendu comme poésie, imagination, dans ce qu'elle peut apporter comme réponse aux problèmes contemporains. Enfin, puis il y a une dimension éminemment politique, éminemment démocratique aussi. Dans cette faculté que doit avoir, selon moi, la poésie, entendue comme imagination à nouveau, dans les réponses qu'elle peut apporter aux problèmes contemporains. Et alors, il y a, avec l'apparition de ce personnage, aussi la relation entre l'irrationnel et le rationnel, dans la gestion de la communauté, dans les différentes sociétés, qu'elles soient africaines, et là l'Afrique est métaphorique, mais je pense que tôt ou tard, cette problématique-là doit être posée aussi dans nos sociétés occidentales. Est-ce que la rationalité est la seule possibilité de source de réponse pour les problèmes qui se posent à nous ? À mon avis, non. Elle est la réflexion doit emboîter l'irrationalité, mais entendue de nouveau comme poésie, force de l'imagination et la rationalité.
Oui, donc cette force poétique qui ne connaît pas de barrière, qui peut imaginer ce que l'on considère même comme impossible aujourd'hui, en fait, ça se résume en un mot, c'est l'utopie.
Oui, effectivement, comme source de, non seulement de réflexion, mais comme possibilité d'alimentation constante de la rationalité et de la réflexion.
Nous sommes devenus trop rationnels
goût. Oui, je pense, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, je citerai par exemple un auteur comme Yves Bonnefoy qui a longuement réfléchi à cela et qui dit que la culture dominante marginalise la parole poétique et donc prive la réflexion et la rationalité d'une sorte de phare qui pourrait l'éclairer, qui est la poésie, l'imagination, l'inventivité, tant dans la sphère politique, la sphère sociale, que dans la sphère individuelle. Je pense qu'on est en plein dans une ère administrative de nos vies individuelles et de notre vie collective. Et ça, c'est on s'ampute d'une partie des réponses possibles, je pense.
Pour le dire bien plus platement que vous, on dit souvent d'ailleurs que nos vies manquent de poésie.
Voilà. Voilà, vous avez résumé trois minutes de temps de parole que je viens de consacrer.
Mais voilà, en disant que l'on a manqué de poésie, ça veut dire qu'on manque d'audace, parce que la poésie peut aussi être très subversive. La poésie, ou même cette référence à Eschyle, ce poète grec, où vous nous rappelez que la première forme de démocratie, la première forme de réflexion sur la justice, la première forme de responsabilisation de l'homme, du citoyen, il la met en scène, littéralement, et ici, votre Pasolini qui refuse de mourir puisqu'il ressurgit quelque part sur une terra incognita en Afrique, s'ingénie à croire qu'à la repenser, à la refaire rejouer, à la réoffrir tous les jours, cette poésie va pouvoir réenchanter le monde ou pas.
Oui, effectivement, il croit en une sorte de transmission génético-culturelle qui se transmettrait au gré des générations. Et l'Orestide Eschyle, que ce personnage, qui est Pasolini en fait, qui ne serait pas mort, mais qui serait quelque part confiné dans le fin fond de la savane en Afrique, puisqu'il s'y était lui-même rendu pour mettre en scène l'Orestide Eschyle. Et puis il est mort en 75 dans les conditions que l'on sait, donc il n'a jamais pu mener à bien ce projet. Donc moi je le fais revivre en fait, ou je le fais continuer à vivre en Afrique. Et il s'échine chaque année à remettre en scène cette pièce de théâtre qui est l'Orestide Eschyle, écrite 5 siècles avant Jésus-Christ, et qui réfléchit, qui met en scène ce rapport entre l'irrationalité, les Erinnies, les déesses de l'irrationalité, et la rationalité par le biais du premier tribunal humain, de la première conception démocratique de la vie en société. Et Eschyle essaie de trouver un équilibre entre ces deux dimensions, et il dit à nouveau que, il le dit et Pasolini le reprend, et très modestement je pense qu'ils ont raison, c'est que dans cette tension existentielle entre l'irrationalité et la rationalité, ou entre la poésie et la démarche purement rationnelle au niveau des vies individuelles, dans cette tension existentielle existe la réponse aux maux tant individuels que collectifs. Et donc, c'est une voie qu'ils ont tracée et qui, à mon avis, mérite d'être redécouverte et reparcourue.
Parce qu'il n'y aurait donc pas de réponse préformatée, pas plus dans le droit que dans la justice. Tout ce qui serait trop écrit, trop contraint, trop administratif, trop formaté, trop coulant de source, n'est pas digne de la vie, Giuseppe Santoliquido ? Elle la restreint ?
Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle n'est pas digne de la vie, mais en tout cas, voilà, vous avez parfaitement résumé la chose, elle l'a restreint. Et d'ailleurs, Pasolini disait dans d'autres écrits, non pas poétiques, mais plus politiques, il disait dans les années 60, prenons garde, la nouvelle forme de fascisme ne sera pas le fascisme tel que nous l'avons connu dans les années 20 à 40, mais sera l'uniformisation des esprits.
Ouais, et voilà qu'on fait le lien avec votre première démarche littéraire.
Absolument. Ouais. Vous voyez que tout ça est parfaitement réfléchi.
Et donc, ce nouveau fascisme-là, l'uniformisation des esprits, vous croyez que c'est d'une terre plus traditionnelle comme l'Afrique qui garde plus de portes ouvertes que nous, que la nouvelle réponse peut venir ?
Écoutez, je le pensais. Je le pensais, mais je crains qu'elle soit elle aussi frappée par cette uniformisation des esprits et par ce mimétisme peu fertile de la réflexion et de la vie à l'occidental, et donc qu'elle se prive, je pense, d'une partie des ressources dont pourtant elles disent qui sont les siennes et qui sont symbolisées par ces Erinnies qui sont ces déesses de l'irrationnel. Et donc, pourquoi et comment, évidemment, ça ce serait un long débat, mais se privant de cette source de réponses possibles, je pense qu'elle pourrait, et non seulement qu'elle pourrait, qu'elle est en train de suivre un chemin qui pourrait la fourvoyer. Je dirais qu'il y a une inadéquation culturelle entre les modèles importés par l'Afrique et les modèles appliqués sur ses propres terres, et les problèmes qui sont les siens et les sources des réponses qu'elle pourrait creuser.
Vous mettez en scène aussi à un moment donné une militante veuve de responsable politique, essaye de conserver ou de re-questionner la charge des valeurs de la militance qu'elle cherche encore à incarner. Là aussi, une politique en panne par manque de vista, la militance, un mot déconsidéré, la poésie qui pouvait engendrer le rêve d'utopie pour demain le soleil sera plus beau. Ça vous manque, Giuseppe Santoliquido ?
Oui, ça me manque. Non, vous savez, il y a un poète italien que je cite dans l'ouvrage en exergue qui s'appelle Ungaretti, qui lui-même s'inspirait d'un poète qui a pratiquement éclairé la poésie contemporaine italienne, qui s'appelle Leopardi. Et ce Leopardi expliquait qu'il existe avant l'aurore une heure totalement noire, où le soleil ne s'est pas encore levé, ne s'annonce même pas. La lune est couchée, il n'y a pas d'étoile. C'est une heure complètement noire, c'est une sorte d'interruption, de mise entre parenthèses. Donc le noir absolu, le silence absolu, qui précède juste l'aurore. Et dans cette heure qui est éminemment poétique, au sens de la poésie fondamentale, c'est-à-dire d'instaurer un rapport plein à soi-même et au monde, dans cette heure parfaitement noire, il y a moyen de se mettre en pleine connexion avec soi-même et avec le monde, et de donc retrouver des moments de plénitude passée, ce que traverse chacun de mes personnages dans l'enfance, dans des relations amoureuses, dans le passé en tout cas. Si nous parvenons à écouter ces moments-là, alors l'aurore qui suit permet d'entamer un voyage qui est totalement différent de celui que l'on affronte si on ne saisit pas ce moment. Si on ne saisit pas ce moment, explique Ungaretti et Leopardi, la quotidienneté, la rationalité obtuse permettent d'ériger des murs qui créent une sorte de cécité de l'âme. Et donc le voyage se fait à l'aveugle. On n'est pas éclairé par une dimension poétique, une dimension d'imagination, une dimension de relation à l'autre et au monde qui donne un sens à notre action. Et bien souvent, j'ai l'impression, et je crains que l'Afrique ne suive cette voie-là, mais même ici, que bien souvent, la gestion du vivre ensemble de la collectivité se fait comme si l'on envoyait un entrepreneur édifier un immeuble sans plan d'architecte. Donc on ne sait pas où on va, on met une brique sur l'autre en espérant que ça tienne et que les soubresauts ne fassent pas tomber l'édifice. Et c'est ce plan d'architecte, ce sont les valeurs qui elles-mêmes doivent être puisées dans cette dimension poétique, du moins selon moi.
Est-ce que le politologue qui trouverait notre monde peut-être trop ascétique, trop restreint de sa poésie, trop peu enchanté de son utopie, trop peu créatif, se trouverait, je dirais, de la consolation dans la plume de l'écrivain chez Giuseppe Santoliquido? C'est l'écrivain qui sauve le politologue amer?
Mais qui du moins le complète. On me demande souvent, on me pose souvent la question de savoir, mais est-ce que vous mettez de côté la dimension entre guillemets, analyste politique, essayiste, lorsque vous écrivez une fiction.
Mais moi, j'ai été traversé de cela.
Voilà, j'ai été bercé par cette littérature italienne et latino-américaine où cette différence n'existait pas. Ça aussi, c'est une dimension peut-être à creuser dans nos problèmes contemporains, dans le problème de sens contemporain. J'ai été bercé par ces écrivains qui étaient Sciascia, Moravia, Pasolini, Calvino, Pavese, ou Gabriel Garcia Marquez, Borges. Ces gens qui ne faisaient pas cette distinction. Leurs écrits, Vargas Llosa disait, pour qu'un écrit ait de l'importance, il faut qu'il ait une dimension métaphysique, mais il faut aussi qu'il ait un enracinement profond dans les problèmes du temps qu'il est en train de scruter. Si ces deux dimensions-là ne sont pas présentes, il y a un problème. Et donc tous ces gens ne scindaient pas leur... On avait ça dans le cinéma italien notamment, dans tous ces auteurs comme Rossellini, De Sica, Visconti, écrivaient et faisaient écrivaient de la politique et mettaient en scène dans la fiction aussi de la politique.
Donc en l'occurrence ici, c'est une grande fable contemporaine que vous nous offrez au sens de la fable initiatique, en ce qu'elle nous emmène en voyage. C'est un voyage psychanalytique aussi, on n'en a pas encore osé le mot, mais en quelque sorte, vous nous amenez au tréfonds des ressorts de notre inconscient, ou de ce que nous appelons tel, de notre conscient, qui n'est peut-être pas toujours autant qu'on le pense, des ressorts de nos existences.
Oui, vous avez tout à fait raison. Le rêve est la fiction de l'inconscient. L'inconscient réfléchit à travers le rêve, il fait ses propres montages, il met sa propre fiction. Et là aussi, l'inconscient peut éclairer une partie de notre cheminement conscient. Donc, de nouveau, oui, ça me fait penser notamment aux écrits de Pessoa, où la dimension de la réalité et la dimension du rêve finissent par se mêler. Vous connaissez ces fameux vers du bureau de tabac. Je suis aujourd'hui partagé entre la loyauté que je dois au bureau de tabac d'en face en tant que chose extérieurement réelle et la sensation que tout est songe en tant que chose réelle vue du dedans. Donc les deux choses se complètent, les deux dimensions se complètent et permettent le voyage.
Ce qui est tout à fait fascinant, hein, c'est que si l'on ne prête pas garde, le lecteur se rendra compte que vous ouvrez notre premier voyage commun corsaire avec vous, au commencement par un rêve donc, de Frédéric Verratti, qui est donc votre personnage, hein, qui sonne furieusement comme votre nom d'ailleurs, hein, quelque part on s'imagine bien que vous soyez bien mis en scène, et si l'on saute l'idée qu'il y ait une préface, puisqu'il y en a une, et que l'on commence par la lire, hein, si l'on m'avait dit un jour d'octobre 2012 que Giuseppe Santoliquido, qui venait de remporter le prix 2012 du premier roman, écrit par un belge, publierait dans la foulée un premier recueil de nouvelles, j'aurais eu peine à le croire. On pense presque que c'est Verratti qui parle de vous.
Oui, il y a effectivement...
Le début du récit est presque déjà dans la préface.
Oui, effectivement, vous avez parfaitement raison. Mais là le fait, si je peux me permettre, le fait, vous mentionnez le fait que ce soit un écrivain, en fait c'est un écrivain qui rêve qu'il est en train d'écrire un récit de voyage auquel il n'a pas participé. Ouais. Et ça, c'est une métaphore de ce qu'est la littérature. Qu'est-ce que la littérature, sinon la métaphore sublime du fait que notre dimension sur Terre, ontologiquement, comme disent les philosophes, est d'être en commun. Et donc, toutes les expériences, la mémoire, tout ça se transmet par la littérature. Donc la littérature, c'est la vérité vraie, si vous me permettez l'expression, de notre dimension d'être en commun. C'est un énorme réceptacle mémoriel qui fait en sorte que ce que j'écris est à vous, ce que vous lisez est à celui qui l'entend. Et tout cela ne forme plus qu'un pot commun qui représente l'être singulier pluriel, l'être ensemble, comme dirait Jean-Luc Nancy.
Avec Fernando Gaspari, dans votre précédent ouvrage, vous nous emmeniez déjà sur l'urgence mémorielle. Hein. Perdre la mémoire, c'est perdre le sens des valeurs. Mais ne pas oser voyager, c'est ne pas oser en inventer d'autres. On est stérile ?
On court le risque, je pense, d'aller vers la stérilité. Oui, effectivement, on court le risque. Si on ne réfléchit pas à toutes ces valeurs qui doivent conditionner, à ce phare des valeurs qui doit conditionner, qui doit éclairer la fourmilière, sinon les fourmis risqueraient de tourner à vide, effectivement.
Alors, on a souvent évoqué ici, plusieurs auteurs italiens, mais Pasolini qui est ici au cœur, poète sulfureux s'il en est, militant politique engagé, mais sulfureux s'il en est, homme sulfureux s'il en est, et les conditions de sa mort n'ont pas encore réglé tout de ces questions-là non plus. Qu'est-ce qu'il vous a communiqué à vous, cet homme hors norme, mais dont l'Italie n'a pas toujours capté l'héritage ?
La non-banalité de la pensée. Il ne parcourrait pas les chemins balisés par toutes les personnes qui étaient chargées d'entretenir la pensée unique. Il partait sur les routes qui étaient siennes, qu'il assumait, tant au niveau de sa vie sexuelle, de sa vie politique. Il revendiquait le droit à la différence, y compris identitaire, y compris dans les poésies dialectales. Donc c'est quelqu'un qui ne parcourrait pas les chemins battus de un, qui allait jusqu'au bout. Si vous analysez sa trajectoire, c'est presque un kamikaze. Il est allé jusqu'au bout de ses convictions, de ses pensées, de ses croyances, jusqu'à en assumer les conséquences, puisque il a quand même fort à parier que son meurtre ait des dimensions politiques.
Et donc, qu'est-ce qu'on semble indiquer de plus en plus ?
Voilà, c'est cela. Et donc, c'est un personnage éminemment éclairant, et par ailleurs un artiste complet, éclectique, comme à mon avis le XXe siècle en a peu porté. Peinture, poésie, traduction, cinéma, théâtre, roman. Donc c'est quelqu'un dont l'œuvre, je pense, mériterait d'être redécouverte et retravaillée, comme elle l'est de moins en moins, en tout cas dans les pays non italophones. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, en tout cas, alimenté mes réflexions, oui, effectivement.
C'est quelqu'un qui n'hésitait pas non plus à retourner à ses sources, hein, vous l'avez dit, l'Orestie d'Eschyle, c'est une page vraie de la biographie de Pasolini. En l'occurrence, retourner aux sources à une heure où on nous dit dans l'enseignement que, après tout, les humanités gréco-latines n'ont plus forcément beaucoup de sens, vous le regrettez ? Vous pensez qu'il y a aux origines déjà et encore des poésies qui peuvent réenchanter le monde ?
Oui, tout à fait. Mais vous voyez, pour répondre directement, je pense que si l'on observe les budgets qui sont alloués à la culture, à l'enseignement, au cours des dernières années, y compris par des personnes qui émanent de partis ou de mouvements, dont la vocation serait de mettre la culture, en ce qu'elle est éminemment démocratique, à la mettre et à la renforcer, à la mettre au goût du jour et à la renforcer, si on voit ces budgets constamment en décroissance, et si l'on voit le peu d'intérêt accordé à la culture dans les pays occidentaux, mais la Belgique, puisque l'on y vit, et en Italie, je pense que cela aura des conséquences catastrophiques. Or, pour contrer l'uniformisation de la pensée, l'uniformisation stérile des politiques qui sont menées notamment par les institutions européennes, eh bien, puisons dans les sources de différence que la culture de chaque pays, l'inventivité de chaque pays. Pourquoi ne pas fusionner le ministère de l'économie avec le ministère de la culture pour faire que la culture soit une ressource économique à mettre constamment en avant, ces politiques-là? Mais elles effraient, évidemment, ces politiques-là, parce qu'elles demanderaient du courage politique et elles demanderaient une connaissance de la culture de chaque pays qui, à mon avis, n'est pas toujours présente dans le chef des personnes qui doivent diriger ces secteurs-là.
Et en même temps, effectivement, il y a une part d'effroi. Et puis, il y a peut-être la question exotique que je vais oser vous poser. Est-ce que l'on peut avoir la part onirique, la part initiatique, la part de ce voyage dont on ne sait jamais s'il est totalement réel ou non, l'audace créative de remettre en pleine savane en scène Eschyle, comme Béjart pouvait le faire dans certaines contrées lointaines? Est-ce que l'on peut avoir cela si l'on n'a pas la profondeur de paysage du Mont Cameroun que vous nous décrivez sous vos yeux? Est-ce que l'on fait ça quand on est le nez sur une tour de béton, Giuseppe Santoliquido?
Non, évidemment non. Évidemment non. Il y a les voyages intérieurs qui peuvent compenser, les voyages littéraires qui peuvent compenser, ce réceptacle mémoriel commun qui est la littérature, qui est l'art. Mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Mais le voyage que je propose au lecteur au travers de ce roman est un voyage évidemment métaphorique. On peut très bien voyager en soi. Le voyageur immobile de Pessoa est une ressource inouïe. Il voyageait à partir de sa chambre de bonne. Donc, c'est métaphorique de l'inventivité et de la créativité et de la diversité dans l'association. C'est dans être ensemble, ce qui compte, c'est ensemble. Chacun peut être différemment, mais être ensemble. Et ces ressources-là ne sont puisables, à mon avis, que, de nouveau, je me répète, que dans la poésie entendue comme imagination qui doit compenser, qui doit alimenter la dimension rationnelle. Sans cela, nous n'allons pas faire un débat politique, mais sans cela, voyons les travers dans certains pays comme méditerranéen notamment, où les ressources d'imagination et de créativité ont toujours été les ressources premières qui aujourd'hui sont négligées. Voyez dans quel marasme cela plonge, cette cécité vis-à-vis de l'imagination. Voyez dans quel marasme cela plonge ces pays, pourtant pleins de ressources.
Chacun des petits voyages ou des petits chapitres ou des petites incursions que vous nous proposez ici, et c'est une figure de style assumée, je le sais, sont sur le mode inachevé. Et donc, par ce style-là, vous nous suggérez qu'il y a, d'où l'obligation de vous reprendre en cycle dès lors qu'on a fini la lecture, une part nécessaire du lecteur à apporter à sa lecture.
Oui. On va faire trop de citations, mais souvent on me demande « qu'est-ce que la littérature pour vous ?» Et je réponds en empruntant la phrase de Pessoa de nouveau « c'est l'intranquillité ». Si un livre ne suscite pas l'intranquillité dans le sens où il vous fait vous poser des questions sur votre rapport au monde, tant en tant qu'écrivain, ce qui est éminemment égoïste, mais en tant que lecteur, ça ne l'est plus. Donc à partir du moment où il y a cette mise à plat de ces rapports au monde et donc cette intranquillité dans le sens où vous posez des questions par rapport à ce que vous faites ici, sur ce que l'on fait ici, comment doit-on vivre ensemble et vers quelle direction on se rend ensemble. S'il n'y a pas cette dimension-là, je pense que quelle que soit l'œuvre d'art ou quel que soit le travail qui était accompli, il y a un manque. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a cette volonté assumée, réussie ou pas, ça les lecteurs jugeront. Mais en tout cas, j'assume cette dimension en tout cas de je lis. Et je me pose des questions sur ce que je suis en train de lire, quitte à revenir en arrière, effectivement.
Vous nous mettez dans l'obligation de participer à la lecture.
Oui, c'est un principe de travail.
Et en même temps, et j'ose le mot aussi, vous nous invitez en absurdie, si tant est que ce soit le continent de tous les possibles, où l'absurde n'est pas quelque chose que l'on vilipende, que l'on rejette, où l'absurde, c'est tout simplement ce qui n'est pas encore tout à fait réel.
Voilà, effectivement, oui.
Qu'est-ce que vous en dites et en recevez, si dans moins vous en avez parlé avec eux, de vos étudiants en Afrique?
Je me rends en Afrique là dans quelques jours et je vais présenter le livre, évidemment. Plusieurs dates sont prévues pour cela. Et je pense qu'il faut avoir aussi avec... enfin, en tout cas, moi, c'est la relation que j'essaie d'entretenir, un rapport tout à fait franc. Parce qu'il y a ce biais intellectuel de se dire « je suis le blanc qui vient parler d'un ouvrage dont la trame narrative se situe en Afrique. » Donc, il y a le risque d'être un petit peu moralisant, un petit peu donneur de leçons. Et donc, ça, c'est tout à fait dangereux. Mais je pense qu'il faut aussi un rapport franc, disant « mais vous avez votre part de responsabilité sur les biais que vous êtes en train d'adopter, sur ce fourvoiement, je vais dire, du moins selon mon point de vue. » Et donc, voilà. Et je pense qu'il y a ce rapport tout à fait franc. Et lorsqu'ils nous disent « bah, écoutez, vous savez, l'Occident vient ici perpétrer de la corruption et donc soudoyer certains de nos chefs d'État et de nos dirigeants pour des intérêts propres », je leur dis toujours « mais écoutez, si on ouvre, si on trouve une porte ouverte, il est quand même toujours plus facile d'entrer que si elle est verrouillée à double tour ». Donc il faut aussi s'auto-recentrer là et faire ce travail de recherche entre un modèle culturel et politique adéquat à l'identité propre, quitte à traverser une phase de difficulté dans certaines relations bilatérales. Mais cette phase de difficulté, elle est déjà, lorsque je me rends au Cameroun, outre la beauté du paysage et l'aspect poétique de certaines relations humaines, il y a une énorme misère économique aussi. Donc ça, il faut essayer d'y porter remède.
Vous allez leur rappeler, en les invitant à lire et en les lisant avec eux, ce que Pasolini disait aussi d'eux il y a plus de 50 ans, hein, en 61, et que vous mettez en exergue. Afrique, mon unique alternative. Ça doit faire longtemps que les Africains n'ont plus entendu, venant d'ici, quelqu'un qui pourtant il y a 50 ans déjà disait d'eux qu'ils étaient l'alternative. Oui. Mon unique alternative.
Oui, je pense aussi que si une réponse doit venir dans cet équilibre nécessaire pour l'épanouissement individuel et social, il doit venir de là.
Ouais.
Parce qu'une partie de la réponse est là-bas.
Et en même temps, on rappelle qu'il y a aussi chez vous, dans tout ce voyage corsaire auquel vous nous invitez, une Afrique métaphorique, celle du voyage que, allez, quel qu'il soit, vous nous invitez à faire. Bien, alors, il me reste à convier celles et ceux qui nous ont entendus à se précipiter sur votre voyage corsaire, qui doit donc devenir le nôtre, et où vous nous invitez, Giuseppe Santaliquido, aux éditions Kerr, je le disais, une petite maison, mais qui monte. Hein.
Oui, voilà, c'est une maison qui, à mon sens, doit être encouragée. C'est pour ça que j'ai accepté, évidemment, cette collaboration. Mais il n'y a pas que moi. Franck Andria, Vincent Engel et d'autres ont accepté de soutenir Kerr Éditions et de fournir des manuscrits pour essayer de développer une maison d'édition qui travaille la littérature en Belgique avec un marché extrêmement réduit numériquement. Et donc, c'est un pari sur l'avenir et je croise les doigts pour que cela se passe bien, non seulement pour mon livre, mais pour Kerr Éditions dans les années à venir.
Allez, on croise les doigts avec vous et on invite celles et ceux qui nous écoutent à se plonger déjà sur votre couverture dans un flou choisi d'une rue, d'un aéroport, d'un tapis qui déploie, d'un tapis roulant qui nous invite à partir ou à arriver, on ne sait pas. Merci pour votre voyage corsaire.
Merci, merci.
Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine de 18h30 à 19h.